Bonjour à toutes et à tous, bienvenue Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité. Émission coproduite par l'ANRAS, Association Nationale de Recherche et Action Solidaire, à la technique, comme toujours, ma complice Shelly et votre serviteur Andrés Atenza. En direct de notre studio, Gisèle Halimi, nous lui rendons hommage. Nous recevons aujourd'hui M. Pierre Sugmela, haut fonctionnaire au conseil départemental de la Haute-Garonne, professeur des universités, associé à sciences politiques, à l'Institut de sciences politiques de Toulouse. Il gère un gros service au sein du conseil départemental de la Haute-Garonne, notamment sur les personnes en situation de handicap et personnes âgées. Il a publié récemment un ouvrage aux éditions RS, « La société inclusive, jusqu'où aller ?» point d'interrogation et un gros point d'interrogation. La demande sociale est claire. Nos concitoyens souhaitent l'émergence d'une société inclusive. La FCPE, récemment, la Fédération Générale des PEP, pupilles de l'enseignement public, Trisomie 21, Trisomie France 21, l'APF, France Handicap, ont lancé un plaidoyer « Ma place, c'est en classe ». Les Français se déclarent favorables pour scolariser les enfants en situation de handicap, dans les établissements bien évidemment ordinaires, mais ils sont dubitatifs quant à la capacité réelle de notre système éducatif d'accueillir des enfants avec des troubles psychiques, des troubles du développement intellectuel. Nous avons l'impression que la société inclusive, on n'est pas encore là. Il y a beaucoup à faire. Il y a donc un plafond de verre. Monsieur Pierre Sugmela, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Donc vous avez vu que nos concitoyens veulent la société inclusive, mais l'ensemble du système ne fonctionne pas. Et dans votre livre, vous le dites, votre livre que nous vous conseillons de lire, un ouvrage que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies toulousaines, vous empruntez à Antonio Gramsci, ce grand philosophe italien, et vous le dites fort à propos, la notion de crise, en parlant de la notion de crise, le passé refuse de mourir, on pourrait dire que la société ancienne refuse de disparaître, et l'avenir tarde à naître. Et entre ces deux moments-là, il y a la crise, il y a une sorte de flou, on ne sait pas où on va. Alors, votre sentiment entre le besoin, cette envie d'inclusivité plus que jamais, et puis on sait encore une fois que des enfants n'ont pas pu aller à l'école.
Tout à fait, beau paradoxe qui est bien celui de notre société contemporaine. Et je cite Gramsci dans le livre parce qu'on est exactement dans cette situation où on est attaché à un monde ancien, où on a des repères, on sait comment ça fonctionne et donc du coup on y reste un petit peu attaché parce que on n'a pas de visibilité sur la société de demain, sur quel projet de société à défendre et faire advenir. Et donc de ce fait, c'est là où on se retrouve dans cet entre-deux. On sait très bien que l'ancien monde il est terminé, mais c'est celui qu'on connaît, donc on y est attaché. Et en même temps, on sait qu'un autre monde va arriver sans qu'on sache bien ce qu'il en est. Et c'est là vraiment du coup la définition au sens fort de la crise, et donc on est en plein dans cette situation aujourd'hui. Et vous insistez sur la dimension justement évolutive qu'il y a dans notre société, où on a dans le droit beaucoup de choses qui sont posées, hein. L'école inclusive, c'est très très clair du coup d'après les textes, et une confrontation à la pratique des familles, des parents, des enfants, des enseignants, qui rencontrent de grandes difficultés à mettre en place cette école inclusive. Alors je pense que toutes ces difficultés, elles sont justement liées à cette période de crise, puisqu'on passe d'un modèle à l'autre, et à chaque fois que ce soit dans des dimensions beaucoup plus larges, très systémiques, ou dans des dimensions aussi du quotidien, qu'on change de logique d'un passage à un autre, il y a un moment, il y a un entre-deux, où bien, il faut bien s'avancer. Et donc là, je pense qu'on est vraiment dans cette logique où on a commencé à traverser la rivière, mais on est au milieu du gué, et voilà, on voit qu'il y a une autre rive sans trop distinguer exactement ce que c'est. Mais voilà, mais on s'est déjà engagé dans quelque chose. Et donc c'est le moment le plus inconfortable. Il vaut mieux être d'un des côtés de.
Mais pourquoi notre pays est en retard par rapport, on cite toujours les pays nordiques, sur cette société inclusive, y compris pour les travailleurs en situation de handicap. Les ESAT, par exemple, existent peu dans le modèle suédois, quasiment pas. Ils sont dehors, ils sont dans les entreprises. Il y a des systèmes. Que se passe-t-il dans notre pays pour que cette difficulté à comprendre le handicap, que ce soit adulte ou enfant, enfant ou adulte, pourquoi notre société a du mal et pourquoi il faut des lois, et c'est quand même un certain nombre de lois. Chirac, le président Chirac avait lancé, il avait vécu dans sa chair la difficulté d'un enfant handicapé, mais quand même tout ce temps, et nous avons encore des difficultés. Que se passe-t-il dans notre République, monsieur ?
On a une culture intégrative, c'est-à-dire cette société qu'on est en train de quitter et qui est encore très très forte. En fait, c'est la question, elle est même au-delà de la question du rapport au handicap. Elle est dans le rapport à la différence par rapport à la norme sociale. Et particulièrement en France, se pose une grande problématique qui est liée à notre culture politique. On est un pays où on s'est bâti dans la dimension des droits de l'homme et du citoyen, qu'un grand H et un grand C, où on a demandé à chaque individu de se hisser à la hauteur de ce citoyen avec un grand C. C'est pas dans cette logique que se sont inscrites, par exemple, les modèles anglo-saxons ou les modèles du Nord, qui ont moins d'exigences et moins d'attendus par rapport à cette logique d'élévation spirituelle et morale qu'on a en France et qui fait la grandeur du coup du pays, hein, dimension à laquelle je tiens profondément. Mais en étant dans cette logique-là, ça veut dire que on a des attentes très fortes de la part des citoyens. Et donc la question qui se pose, c'est pour quelqu'un qui n'arrive pas à être ce grand citoyen avec un grand C, qu'est-ce qui se passe ? Et la réponse qu'on a donnée au fil du temps en France, ça a été de se dire « non, il faut faire quelque chose pour ces personnes, mais par contre, on leur prévoit des circuits différenciés, on leur prévoit des choses spécialisées, et ça leur permettra du coup d'y répondre, mais ils ne rentreront pas dans la logique du citoyen avec un grand C. » Et je pense que c'est ce qui explique que ce soit plus fort en France et plus problématique que dans les autres modèles qui, eux, sont plus centrés, des modèles méditerranéens, des modèles scandinaves, des modèles anglo-saxons, sur des dynamiques différentes, mais où l'inclusion est quand même plus facile par rapport à cette moindre exigence qui est aussi la grandeur et qui fait la noblesse du coup de la politique, la culture politique française, mais qui peut être un vrai handicap pour le coup par rapport à cette approche inclusive.
Si on parcourt votre ouvrage, lui avait beaucoup d'attention. Très belle écriture, vous êtes un intellectuel du secteur, mais vous êtes aussi un acteur précis, vous appliquez les politiques sociales au sein d'un conseil départemental qui prend des décisions politiques. Mais très très vite, à la page 27, vous nous dites vers une transformation des points de repère pour l'individu contemporain. Et vous avez là un chapitre important, quelques pages sur la question de l'individualisme. Là, vous êtes critique sur cette question, l'individu et le groupe, l'individu qui s'impose. Et vous dites, on est dans une génération du « j'ai le droit ». On pourrait dire qu'il y a aussi des obligations, peut-être quelques devoirs, à défaut de convoquer ici la morale ou l'éthique, mais quand même. Alors comment expliquez-vous cette difficulté de cet individu ? Et vous citez à juste titre le président Kennedy qui disait, mais dans son discours d'investiture, qu'est-ce que va faire les États-Unis ? Que va faire l'État ? Mais plutôt, qu'est-ce que vous allez faire, vous, pour votre pays ? On pourrait dire la même chose. Qu'est-ce que vous allez faire pour la République ? Est-ce que la République va faire quelque chose pour moi ? Alors, cet individu nouveau, qui est en émergence également, peut-être.
Alors, peut-être moins une question d'individus nouveaux, parce que ça renvoie à des, à des passés qui ne sont pas les passés les plus appréciables sur certains aspects, mais en tout cas, un nouveau rapport, en effet, entre l'individu et la société. Et ça, ça fait, c'est au cœur, du coup, de cette question de crise dont on parlait au début. Hein. Ce que j'essaye d'approfondir dans le livre, c'est de montrer que il y a des vieilles problématiques qui se posent à l'histoire de l'humanité depuis toujours. Et on y a répondu de manière différente au fil du temps. Et au fur et à mesure que les sociétés évoluaient, on a apporté des réponses différenciées. Et aujourd'hui, je pense qu'il nous appartient d'y répondre différemment. Donc il y a plusieurs problématiques. Il y a la question du rapport au temps, il y a la question du rapport à l'équilibre, et il y a cette grande question qui est l'individu par rapport au groupe. Pour faire simple et très schématique, on est passé de sociétés dites holistes dans l'Antiquité, le Moyen-Âge, où le groupe primait sur l'individu, l'individu pouvait disparaître, ça posait pas vraiment
le
de soucis.
Le groupe protège l'individu.
Tout à fait, et même l'écrase et parfois le fait disparaître. Et donc heureusement, Renaissance, siècle des Lumières, où est apparue du coup la reconnaissance de la personne pleine et entière et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est le parachèvement de cette reconnaissance quand même qu'on va trouver par exemple dans le cadre de l'affaire Dreyfus, où on voit bien ces restes de ces débats qui ont été complètement dépassés. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on est arrivé à un moment où on est peut-être passé d'une logique où le groupe écrasait complètement l'individu il y a plusieurs siècles, à une logique où l'individu a tellement pris d'importance qu'on se demande si on va arriver à faire société. Et donc le débat du moment, c'est, on a l'impression qu'il se réduit à deux alternatives. La première, ce serait, il faut aller encore plus loin dans l'individualisme, mais on sent bien que ça va nous conduire au délitement social, et donc c'est quelque chose qui réfrène fortement, même quand on est très attaché à l'affirmation du coup de la personne et l'émancipation individuelle. Et de l'autre côté, il pourrait y avoir la tentation qu'on sent bien assez fortement, d'un retour à l'ordre, du retour à la règle. La règle va s'appliquer et les individus doivent rentrer dans la règle, ce qui n'est pas très non plus satisfaisant. Et c'est ça, c'est un des éléments qui m'ont vraiment amené du coup à vouloir écrire un livre, c'est d'essayer de montrer que, en fait, on peut arriver à un nouvel équilibre entre cette question de l'individu et du groupe. En fait, le choix qu'on a à faire, c'est pas de se dire où est-ce qu'on met le curseur, est-ce que c'est le groupe plus que l'individu, est-ce que c'est l'individu plus que le groupe. Le débat, si on le pose comme ça, il est mal posé. La grande question qui se pose, c'est comment on arrive à assurer l'émancipation individuelle, d'affirmer la personnalité, d'affirmer encore plus fortement peut-être même que ce qu'on fait aujourd'hui, et donc d'aller très très loin encore dans cette logique-là, et de le concilier avec une logique collective. Et ça paraît aujourd'hui contradictoire parce qu'on a des habitudes de raisonnement classiques et traditionnels. Mais si on a une pensée profondément inclusive, on rentre vraiment dans une possibilité où on peut affirmer complètement l'émancipation individuelle pour chacune et chacun, quelle que soit la situation de la personne, tout en étant vigilant sur l'affirmation du groupe qui est absolument essentielle pour pouvoir fonctionner en société.
Vous parlez longuement dans votre livre sur cette question de l'équilibre, bien entendu, entre les individus et... Très très vite apparaît quand même un nouveau concept que vous mettez en œuvre, la page 47, et je vous cite, l'équilité entre guillemets, ou la tentative de construire un concept pour qualifier les transformations en cours. Je pense que pour nos auditeurs, il serait bon de revenir sur ce concept que vous tentez de donner une chair, donner une architecture, de donner du muscle pour dire qu'est-ce que c'est que équilité. J'imagine que vous l'avez construit peut-être avec cette notion d'équité, équilibre et équité. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Vous y revenez à plusieurs pages dans votre ouvrage.
Ah, tout à fait, merci de souligner la création de ce concept. En fait, l'intérêt de cette notion, c'est de pouvoir qualifier en un seul mot les trois manières de répondre différemment, et pour une société qui, à mon avis, est probable, si on le veut, donc qui a un côté quand même réaliste et atteignable, et qui, parce que ça s'inscrit dans des continuités de choses qu'on connaît aujourd'hui. Et en fait, c'est cette idée d'arriver à valoriser la notion d'équilibre, mais non pas comme quelque chose d'un peu tiède, N'en faisons pas trop d'un côté ni trop de l'autre, restons bien mesurés, etc. Pas dans ce sens-là très classique de la tempérance des Grecs, dans un sens qui est l'équilibre, c'est l'équilibre au niveau quantitatif, c'est un équilibre de vie, c'est un équilibre alimentaire, c'est un équilibre dans différentes dimensions, mais quantitatif, qui va bien avec la sobriété nécessaire dont on a besoin, et en le conciliant à de l'intensité qualitative de notre vie. Donc l'intensité de la relation, l'intensité de notre projet de vie, c'est cette première logique déjà dans le rapport à l'équilibre. Nouveau rapport du coup à introduire, première dimension. Deuxième dimension, dans le rapport au temps. L'idée que pendant longtemps, ce qui servait de repère aux sociétés traditionnelles, c'était le passé. Le passé était structurant et on faisait à chaque fois des références au passé. La tradition, c'est en latin « tradere », « transmettre ». C'est vraiment l'idée qu'on se base sur le passé et qu'on le transmet. Heureusement, il y a eu des évolutions où le présent a pris beaucoup plus d'importance. Renaissance, siècle des Lumières et toutes ces logiques-là, je passe très très vite. Et jusqu'à un hyper-instantanéisme qu'on connaît aujourd'hui, un présent qui va beaucoup trop loin.
L'immédiateté.
Et l'immédiateté qu'on, voilà, dont on s'accorde quand même en très grand nombre à se dire que là, il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut pouvoir dépasser. Et certainement que le temps de référence, désormais, enfin, pour la société de demain, sera le futur. Le développement durable, c'est exactement ça. C'est mener des actions aujourd'hui pour des générations à venir qu'on ne connaîtra jamais. Et pour autant, le temps du présent, il doit être structuré par rapport à des choses du futur. Et ça, c'est quelque chose de radicalement nouveau. Donc, la société équitable, c'est cette première notion d'équilibre qu'on retrouve dans le mot valise équité. C'est cette notion d'intensité dans l'équilibre qu'on retrouve aussi dans le mot équité. C'est ce rapport au futur comme temps de référence. Et puis, c'est la dimension profondément inclusive qui permet une véritable équité entre les personnes. Approche inclusive qui est définie très classiquement, hein, c'est-à-dire que dans les sociétés, on a toujours des normes sociales et on a toujours besoin de normes pour pouvoir fonctionner. On a besoin d'avoir une porte à l'entrée d'une salle, on a besoin voilà, de repères, de règles, de fonctionnement. Et ça, c'est bien nécessaire. La grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait des personnes qui n'arrivent pas à rentrer dans la norme, dans la règle ? Et donc pendant longtemps, on y a répondu donc soit par l'exclusion, soit par la ségrégation, soit par l'intégration en se disant mais les personnes qui sont à l'écart de la norme, que ce soit les personnes en situation de handicap ou d'autres types de situations, il faut qu'elles puissent avoir leur place dans la société, mais avec des circuits différenciés. Exemple, à l'école, l'idée c'était que voilà, certains élèves qui ne peuvent pas suivre le programme scolaire, il faut leur prévoir du coup une éducation, un enseignement, mais dans des circuits spécialisés avec l'idée que ce serait mieux pour eux. Si on passe à une logique inclusive, c'est une transformation radicale, puisque c'est plus seulement un effort qui est demandé aux personnes de rentrer dans la norme, c'est aussi la capacité à adapter la norme à la situation de chacune et de chacun. Et c'est là où l'école inclusive, c'est plus est-ce que l'élève suit le programme scolaire ou pas, c'est l'élève est à l'école et on va adapter du coup le programme scolaire pour lui permettre de faire partie du groupe classe comme les autres. Et donc, c'est un total renversement dans les pratiques qu'on pouvait avoir jusqu'à présent et dans notre culture intégrative qui est profondément
ancrée.
L'équité et tout ça.
Mais est-ce que les équipes éducatives, la communauté éducative est prête à cette dimension ? Parce que vous le dites très justement dans votre livre, encore une fois, je vous cite page 70, le concept d'équité permet alors de définir une nouvelle approche de la conciliation entre, vous le dites, entre équilibre et liberté de l'individu, équilibre et égalité entre les personnes, et vous allez loin pour une nouvelle fraternité. Mais est-ce que vous voyez la nouvelle fraternité émerger où on allait loin ? Parce que parfois, j'ai des doutes.
Le renversement de la transformation, le changement de paradigme fait que nécessairement, ça nous secoue et qu'on n'en a pas l'habitude, et donc ça paraît nécessairement compliqué comme tout grand changement. Mais là où j'y vois une véritable possibilité, c'est que je pense que si on arrive à bien s'accorder sur ce que ça signifie l'approche inclusive, on se rend compte que c'est beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Je prends un exemple qui n'a rien à voir avec le handicap. Je suis enseignant à Sciences Po Toulouse. Moi, j'ai connu les enseignants qui arrivaient du coup à Sciences Po. J'étais étudiant de Sciences Po. Ils déroulaient leurs cours. C'était à moi de m'adapter. Je ne suivais pas, tant pis pour moi. Ça, c'est une manière
d'agir. Et rendez-vous aux examens.
Et voilà, et c'est une manière très intégrative. Je vous donne l'accès possible. Vous vous en saisissez ou pas, vous n'en saisissez pas, c'est votre problème. Et ça, c'est ce que j'ai connu. J'étais formé dans cette logique-là.
Si on est dans une logique, une approche inclusive de cet enseignement, la tendance est complètement différente. On est dans une logique où on va partir de là où en sont les étudiants, essayer d'identifier quels sont leurs besoins et, sans renoncer au contenu de ce qu'on a à transmettre en termes d'enseignement, le rendre accessible aux étudiants. Et du coup, alors c'est vrai que c'est plus difficile pour l'enseignant, c'est plus difficile pour moi, c'est plus simple de préparer mon cours, de dérouler en cours et que les étudiants s'adaptent. Et alors que moi, je dois m'adapter du coup à mes étudiants, c'est plus compliqué. Mais derrière, c'est tellement plus riche, c'est tellement plus juste socialement de permettre à vraiment chacune et chacun d'aller jusqu'à eux, jusqu'à elles, pour pouvoir les amener jusqu'à l'enseignement, que c'est ça qui est du coup, à mon avis, l'élément transcendant qui permet de croire en une autre société. Mais c'est ce que j'essaie d'expliquer aussi à travers le livre, c'est un choix de société. C'est-à-dire, est-ce qu'on a bien compris à la fois les impacts que ça représente, parce que ça veut dire que si on est enseignant avec une classe de 30 élèves, on ne peut pas faire une adaptation du programme à 30 élèves de manière personnalisée. Donc là, il y a une limite. Mais il y a d'autres possibilités. Est-ce que ça veut dire qu'il faut renoncer à tout, tout abandonner? Surtout pas. Je pense qu'il y a d'autres manières du coup de s'y prendre. Mais après, voilà, il y a des limites très concrètes. On peut, voilà, ça suppose un autre apport, une autre manière du coup d'enseigner, de s'organiser aussi collectivement. Tout ne doit pas reposer sur les élèves des enseignants qui ne pourront pas répondre à tous les enjeux.
On voit bien aussi que ça va passer par la formation. Vous l'abordez également dans votre livre. Oui, les enseignants, la communauté éducative ou en tout cas les travailleurs sociaux qui doivent travailler ou qui travaillent pour cette société inclusive dans ce milieu dit ordinaire en accueillant un jeune en situation de handicap, avec des troubles de comportement, combien de fois j'ai entendu des professeurs dire « mais moi, je ne sais pas faire, on ne m'a pas formé à ça. Dans ma démarche pédagogique, au cours de mon master, ou quand j'ai réussi mon concours, à aucun moment, on m'a parlé de cette situation. » Et là, vous êtes en train de dire « oui, un changement de paradigme, un changement de modèle, un changement de société. » Alors qu'encore, la société qui devrait naître, on a l'impression qu'elle n'est pas encore conçue. Je suis sévère en disant cela, peut-être.
Non, mais c'est bien qu'on est au tout début, justement, de cette longue démarche et qu'elle n'adviendra que si on le veut collectivement et que, du coup, une fois qu'on le veut, ben, on s'organise pour pouvoir le pouvoir et le mettre en pratique concrètement. Là où j'y crois, c'est qu'il y a cette possibilité d'une justice sociale beaucoup plus grande qui fait que ça peut être très porteur. Après, très concrètement, sur la manière de...
Est-ce qu'ici et là, monsieur Pierre Sugmela, vous voyez des petits changements? Est-ce que ça fait petit à petit tache d'huile? Vous sentez dans une institution, dans une école, dans un lycée, où les individus ont pris conscience et vous voyez que les choses vont dans le bon sens? Est-ce que vous, qui êtes un intellectuel du secteur, mais en même temps un acteur précis, vous prenez des décisions? Est-ce que vous sentez ici et là, par exemple dans notre département ou ailleurs, l'émergence de ces quelques initiatives créatrices?
Alors je le vois très concrètement dans le rapport des enseignants aux élèves en situation de handicap. On a encore une culture intégrative, on a tous été formés, toutes et tous formés de cette manière-là, donc c'est normal qu'on ait ces réflexes. Moi le premier, j'ai ce réflexe intégratif, quand je vois quelqu'un qui est à l'écart de la norme, je le pense déjà et je catégorise spontanément. Ça fait partie de nos réflexes. Mais je vois qu'il y a des évolutions très fortes, où par exemple, des élèves qui ne sont pas capables de suivre le programme scolaire ou qui ne sont pas capables de lire et écrire par exemple, pendant très longtemps, on a considéré que leur place n'était pas à l'école parce qu'ils ne pouvaient pas suivre le programme scolaire, qu'il fallait quelque chose pour eux, mais ailleurs. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer parce que des enseignants se rendent compte que, après tout, pourquoi sa place ne serait pas dans le groupe, à condition qu'il n'y ait pas des revendications, que tout le monde ait le même niveau, etc. Ça suppose un élément d'ensemble. Et aussi sur les exigences. C'est-à-dire que vous disiez tout à l'heure, en effet, les enseignants, ils se retrouvent avec des situations très atypiques, donc c'est compliqué, on ne peut pas être formé à toutes les situations. Mais je crois qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau d'hyperspécialisation face à certaines situations, et là, voilà, face à quelqu'un qui présente des troubles psychiques, c'est pas n'importe qui peut s'improviser pour apporter des réponses. Et donc, il faut un appui du secteur psychiatrique. Il y a besoin d'un apport du secteur spécialisé. Et c'est là où il y a besoin d'un secteur médico-social beaucoup plus présent au sein de l'école, si on parle de la question de l'école. Ça, c'est pour les situations vraiment très spécifiques. Mais sinon, c'est une question en fait de réflexe. Au lieu de partir du principe tout de suite discriminant, de se dire bah, « est-ce que l'élève va être en capacité de suivre ou pas ?» c'est partir du principe que oui, l'élève a sa place dans mon groupe classe, Maintenant, comment on fait du coup pour s'adapter et se lancer? Et comment dire, c'est pas pour faire la morale aux autres personnes, hein, c'est pour se l'appliquer à soi-même. Dans mon livre, à la fin du livre, j'ai la traduction du livre en communication alternative améliorée, c'est-à-dire qu'un système de pictogrammes. L'idée de fond, c'est de dire, voilà, le livre, il n'est pas fait que pour des personnes qui ont un goût intellectuel de la réflexion, du concept. Et parce que quelqu'un qui ne lirait pas du tout, il se retrouve avec ce livre. Le message que ça lui renvoie, c'est ce livre n'est pas pour toi. Ce livre, il n'est pas fait pour des personnes comme toi. Et donc, en le rendant accessible de différentes formes, il y a une partie facile à lire, à comprendre, pour des personnes qui ont besoin du coup d'une facilitation dans la lecture. Il y a une partie en pictogramme que je me suis astreint à mettre. Alors évidemment, ça me demande plus de temps. Je ne suis pas un spécialiste du coup des pictogrammes, mais je pense que cet effort-là, il peut être fait par tout le monde. Après, ce n'est pas une traduction parfaite. Le facile à lire, à comprendre, je dois l'avouer, je pense qu'un spécialiste du Falck me dira... voilà, vous êtes allé un petit peu, ça peut être amélioré. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut attendre d'être parfaitement formé au Falck pour pouvoir commencer à le lancer? Ce qu'on fera du coup peut-être jamais, et donc le livre serait sorti sans le sortir. Ou est-ce qu'on se dit, à un moment donné, je me jette dans le grand bain, je m'adapte, j'ai quand même compris les grands principes, et du coup j'arrive à quand même le rendre accessible.
On va y revenir tout à l'heure, parce que votre livre est très riche, beaucoup d'idées. On reviendra sur cette question que vous abordez qui s'appelle... une nouvelle question pour penser différemment l'altérité, mais également sur le processus inclusif. Et vous dites qu'il y a des méthodes. Et peut-être quelque chose, mais après cette courte chanson qu'on vous propose, on reviendra sur l'autorité de jure et l'autorité de facto dans ce métier. Mais avant tout, une petite pause musicale. Merci.
Qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint.
Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne. Et je pense aux jours lointains.
Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse.
Que reste-t-il des billets doux? Des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse.
Bonheur fané, cheveux au vent,
baisers volés, rêves mouvants.
Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi.
Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché.
Et dans un nuage, le cher visage de mon passé.
Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois,
les fleurs qu'on retrouve dans un livre dont le parfum vous enivre. Se sont envolés, pourquoi?
Que reste-t-il de nos amours?
Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse.
Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse?
Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi.
Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché.
Et dans un nuage, le cher visage de mon passé.
Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité, toujours avec mon invité, Monsieur Pierre Sugmela, qui vient de publier un ouvrage dans une très belle maison d'édition, RS. Petit coup de passage publicitaire, c'est nécessaire pour ces éditeurs de grande qualité dans la région. La société inclusive, jusqu'où aller? Grand point d'interrogation. Comment vous est venue, Monsieur Pierre Sugmela, l'idée, cette envie d'écrire ce livre? Il y avait un manque, c'était pas assez documenté, vous étiez en colère, vous vouliez dire quelque chose de nouveau?
Alors c'est vrai que le mot inclusif était très à la mode et voilà, avec déjà beaucoup de choses écrites, notamment par Charles Gardou qui m'a fait l'honneur de préfacer le livre. Et donc on peut se demander mais à quoi ça sert de rajouter un élément supplémentaire. Ce qui m'a amené du coup à écrire le livre, en fait, c'est deux choses. D'un côté, en fait, une première approche de l'inclusion que j'avais eue, parce que je suis arrivé en 2012 dans le monde du handicap en tant que directeur de la MDPH. Et donc j'avais travaillé les concepts et m'étais rendu compte que voilà, il y avait un changement là, une évolution pour le champ du handicap, pour les personnes en situation de handicap, avec la nécessité d'aller sur quelque chose de plus stimulant qui était l'approche inclusive. Mais c'est vrai que je le voyais de manière très restreinte au champ du handicap. Et à partir de 2016, j'ai commencé à enseigner à Sciences Po le modèle de protection sociale. Et en enseignant aux étudiants de Sciences Po, je me suis rendu compte qu'on était arrivé au bout d'une partie du modèle de protection sociale et qu'il y avait quelque chose qui devait plus correspondre aux principes de notre temps. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, ce que j'arrête pas de mettre en avant comme approche inclusive dans le monde du handicap, c'est quelque chose qui pourrait se retrouver dans toutes les dimensions des questions sociales. Et c'est là où je me suis dit que vraiment le terme inclusion, il voulait pas, c'était pas juste un mot à la mode pour dire autre chose qu'intégration ou insertion et pour faire nouveau, mais qu'il y avait vraiment quelque chose qui pouvait être apporté et transformer les choses. Mais après, le deuxième élément qui m'a amené à écrire le livre, c'est aussi que j'avais, et je me suis dit que c'était certainement le cas d'autres personnes qui pouvaient se retrouver dans la même situation, c'est que j'étais très séduit par l'approche inclusive depuis les débuts, même quand c'était cantonné uniquement au monde du handicap, mais quelque part, ça venait un peu heurter mon côté très universaliste et très esprit de groupe pour faire triompher quand même la vie en société, le collectif sur l'individu. Et je me disais, mais l'approche inclusive, c'est quand même amener au maximum les personnes à tout ce qu'ils peuvent développer. Donc c'est très intéressant de ce côté-là, mais comment ça se concilie? Est-ce que c'est pas une pierre de plus dans le jardin de l'approche collective et donc de renchérir encore plus l'hyper-individualisme. Donc j'avais ce gros souci et en fait je l'ai approfondi intellectuellement et je me suis dit mais ça, on n'en débat jamais. En fait, les choses sont bien connues sur le fait que la société inclusive, c'est plus seulement à l'individu qu'on demande de faire un effort pour rentrer dans la norme, c'est aussi cette capacité, comme on l'a défini tout à l'heure, d'adapter la norme à la situation des individus. Mais en général, on s'arrête à cette dimension-là qui est déjà essentielle. Mais ça soulève tout de suite normalement une question qui est, mais ça veut dire que n'importe quelle communauté peut revendiquer du coup sa propre norme. Est-ce que c'est ça? Ça veut dire que n'importe quel individu peut arriver et dire que la société s'adapte à moi, j'en ai le droit puisqu'on est, on va aller dans une société inclusive. Et ça, ça me heurtait profondément. Et c'est là où j'ai voulu vraiment approfondir ces aspects-là et montrer, attention, une société inclusive, ça se marie très très bien avec le néolibéralisme, ça se marie très très bien avec le communautarisme, mais ça ne conduit pas nécessairement à ces pistes-là. C'est juste une manière, du coup, d'utiliser l'approche inclusive. L'approche inclusive, ça peut garder tout cet intérêt de justice sociale et de d'émancipation individuelle, d'épanouissement personnel, mais à condition qu'on s'entende bien, justement, sur les limites qu'il peut y avoir derrière, d'où le titre aussi, jusqu'où aller. Alors, la réponse est très claire, il faut aller bien plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui et jusqu'au bout de l'approche inclusive.
Votre conclusion est très claire, vous le dites dans le livre, en conclusion, oui, il faut y aller plus que jamais, parce que c'est une des capacités d'émancipation, vous l'avez dit. Hein. Et peut-être, il faut revenir à cette idée d'émancipation, Troisième République, citer Léon Bourgeois, en disant oui, il faut de l'émancipation pour les personnes. Quoi. C'est un auteur qui mériterait qu'il soit étudié un peu plus dans les universités.
Tout à fait.
Et on parle beaucoup de l'école, mais les personnes âgées, et vous êtes en charge au conseil départemental de la Haute-Garonne, des politiques sociales et des personnes âgées. Est-ce que pour les personnes âgées, on peut parler aussi de société inclusive? Parce qu'on a l'impression qu'on les met de côté, on les met à part. Je ne dirais pas qu'on les cache, mais ça y ressemble parfois. Bon, pour vous qu'il n'y ait pas trop de problèmes avec les personnes âgées. C'est difficile à gérer le handicap des personnes âgées, l'Alzheimer et tout ce qui vient, toutes ces pathologies terribles pour l'individu. Société inclusive aussi pour les personnes âgées?
Ah, complètement. C'est un vrai risque.
Plus que jamais.
Plus que jamais. Et c'est là où on voit que c'est même au-delà de la question du handicap et de la dépendance, parce que c'est l'idée qu'on est capable de s'adapter aux capacités de chacune et de chacun. Mais à commencer par moi-même, qui suis pourtant bien dans la norme très classique, je pense que la société serait encore plus intéressante pour moi si elle était capable, du coup, de s'adapter à mes capacités. J'ai des limitations de capacité sur certaines choses beaucoup moins impactantes que d'autres personnes. C'est pour ça que je ne suis pas en situation de handicap, en tant que tel reconnu par la MDPH. Mais j'ai aussi mes propres limitations de capacité. Et derrière, je serais très intéressé que la société puisse s'adapter, du coup, à ce que je... Voilà, à ce sur quoi je rencontre des difficultés. Donc oui, alors pour revenir à la question des personnes âgées, le risque justement dans un réflexe de société intégrative, c'est de se dire, c'est des personnes qui sont plus actives, qui sont plus dans la norme, donc on va leur prévoir des éléments spécialisés qui vont leur permettre de répondre de manière très adaptée à leurs besoins, besoins qu'on voit surtout sous l'angle des besoins de survie et pas nécessairement des besoins de vie, ce qui est du coup une première grande problématique. Mais je suis convaincu que justement si on a une société véritablement inclusive, c'est une société où on va plus raisonner uniquement par rapport à la norme, et du coup c'est intéressant pour toutes les personnes qui sont à l'écart de la norme, y compris quand on est dans une certaine forme de vieillissement. De plus en plus, on aura une société vieillissante et il va falloir que la société soit beaucoup plus inclusive. Sinon, on va se retrouver avec un tiers de la population qui va très très mal vivre du coup en société, parce qu'à chaque fois, les choses ne seront pas pensées pour elle. Je donne un exemple. Quand on pense une rue aujourd'hui, on a tendance, en premier réflexe, à penser plutôt à un homme de 40 ans et de construire la rue sur ce côté-là. Et après, des fois, de se poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait s'il y a telle situation? Or, en fait, ce qu'il faudrait, c'est penser d'emblée la diversité des situations possibles. Et donc, de penser la situation de la personne âgée, la situation des femmes qui n'est pas tout à fait celle des hommes, la situation des enfants, la situation de quelqu'un avec une poussette, un père ou une mère. Et tout ça, ça doit être... Après, il faut faire des choix. Tout peut pas rentrer, on peut pas faire une rue qui corresponde toujours à tout le monde, mais en tout cas qui soit la plus accessible possible. Et ça, du coup, c'est un changement nécessaire qui, du coup, bénéficiera aussi aux personnes âgées, parce que ce sera aussi comme ça qu'on leur donnera une place pour des personnes âgées, même très dépendantes, même avec des troubles type Alzheimer. C'est aussi comme ça qu'on continuera à les avoir au cœur de la société et pas de manière séparée pour pouvoir essayer de répondre le mieux possible à leurs besoins.
Je vais prendre toutes les précautions oratoires parce que ce n'est pas une question piège, mais elle me brûle les lèvres par rapport au dénigrement des EHPAD. Est-ce qu'on arrive, et vous pouvez me répondre ou éviter bien entendu la question, mais peu importe, je la livre quand même. Est-ce qu'on arrive à un moment du système des EHPAD, au bout de la vie des EHPAD? Est-ce qu'il faut les réinventer? Et s'il faut l'inventer, il faudrait inventer quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose en émergence dans cette vie nouvelle qui se dessine, dans cette société nouvelle? Et encore une fois, vivent les EHPAD aujourd'hui. C'est pour ça que quand je dis je vous pose cette question, je prends toutes les précautions oratoires. Je ne voudrais pas vexer ici et là des professionnels qui font manifestement, parfaitement leur métier, etc. Mais quand même, est-ce qu'on n'est pas au bout de quelque chose dans notre société?
Alors, c'est une grande question qui se pose que celle des établissements médico-sociaux par rapport à l'approche inclusive. Et en général, on a là aussi une manière spontanée de penser la chose et d'y voir une contradiction. Et en fait, je pense que les choses sont mal posées si on les présente de cette manière. Pas comme vous le faites, mais de penser tout de suite que établissement égale problème pour l'approche inclusive. En fait, il faut le voir autrement et poser les choses autrement. C'est parce qu'on aura une société beaucoup plus inclusive qu'à un moment donné, du coup, les établissements tels qu'on les connaît aujourd'hui évolueront mécaniquement
sur
des structures beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus. Mais on aura toujours besoin de lieux quand même où il y a une spécialisation, il y a des besoins spécifiques, il y a certaines situations qui pourront tout à fait correspondre à une logique d'établissement. Et donc à mon avis, alors c'est important, c'est la poule et l'œuf, donc il faut aussi agir à tous les niveaux. Mais il ne faut pas penser que c'est que en changeant du coup les établissements qu'on arrivera à une société plus inclusive. Parce que le pire, ce serait du coup de mettre un terme un jour à des établissements, ce qui n'est pas du tout mon objectif, et qu'une société ne soit pas inclusive. Et là, ce serait encore pire, je pense, pour les personnes qui seraient plus du tout accompagnées. Donc il faut cet équilibre et cette évolution. Et je pense que c'est en mettant le paquet sur une société plus inclusive que, de ce fait, mécaniquement, on arrivera à une évolution des structures type des EHPAD et qu'on sortira aussi de cette crise des EHPAD, parce que c'est sûr qu'une concentration de difficultés dans des lieux, c'est jamais très attractif pour les personnes qui veulent aller dans des lieux qui vont concentrer toutes les problématiques. Et aussi, en termes de gestion, d'organisation, c'est nécessairement du coup plus compliqué. Donc c'est vraiment cette logique-là, et ne pas confondre la désinstitutionnalisation au sens il faudrait fermer ou non les établissements, et être plutôt dans une logique. La désinstitutionnalisation, c'est des institutions au sens la manière dont on s'y prend, et c'est pas que les travailleurs médico-sociaux, c'est vraiment l'ensemble de la toute société, la société qui doit du coup changer de réflexe. Moi le premier, on a des réflexes intégratifs, de changer le réflexe pour être dans une logique plutôt de compréhension, de penser la diversité des situations possibles, et c'est ça qui du coup amènera une profonde évolution et qui sera à mon avis aussi une réponse à la transformation des établissements que les autorités chargées de la tarification et des planifications doivent aussi amorcer et pousser, ouais. C'est leur responsabilité et je ne me déroberai pas par rapport à ça.
Vous ouvrez un nouveau chapitre, page 75, des nouveaux principes à faire émerger dans les relations entre l'individu, et vous abordez la question de l'autorité. Alors moi, j'ai été surpris en lisant votre livre, j'ai étudié, j'ai dit, mais pourquoi M. Pierre Sugmela aborde cette question? Et avec la différence de l'autorité, vous dites des nouvelles conceptions de l'autorité, de la responsabilité à la fois individuelle et collective, et vous poussez le bouchon en disant, oui, il y a deux façons de marquer l'autorité, cette autorité de jure et cette autorité de facto. Est-ce que vous pouvez y revenir? Vous le développez longuement sur la page 80 de votre ouvrage, abordant ces questions, autorité de jure, l'autorité qui vient du statut occupé de la personne, et l'autorité de facto, autorité qui vient de ce que la personne a démontré. Est-ce qu'on peut le développer pour être plus précis avec nos auditeurs?
Avec grand plaisir. Je me suis lancé du coup dans cet approfondissement de la notion d'autorité par rapport à cette question toujours de la place de l'individu par rapport à la société et par rapport à l'approche inclusive. Parce qu'on pourrait avoir l'impression, une fois de plus, que si on pousse dans le sens de l'approche inclusive, on va faire disparaître toute forme d'autorité, parce que pousser l'approche inclusive, ça conduirait du coup à tout égaliser entre les individus et on n'arriverait pas du coup à s'en sortir, parce que dans une société, une fois de plus, il faut de la structuration, il faut de la norme, il faut de l'organisation. Et ce que j'essaie de montrer, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. On peut tout à fait être dans une promotion très forte de l'approche inclusive. C'est peut-être même ce qui va faire gagner en autorité. Je m'explique. La notion d'autorité, c'est une relation de pouvoir. Et on a trois grandes formes de pouvoir. On a le pouvoir classique, je vais forcer un tel par la force à faire quelque chose. C'est la coercition, c'est le très classique recours à la force. Il y a une autre forme, c'est la persuasion. Je vais tout faire pour convaincre la personne pour qu'elle accepte de faire ce que je veux qu'elle fasse, parce que grâce aux mots, j'aurais du coup réussi à la convaincre. Et puis il y a une troisième force, troisième forme de pouvoir, qui est l'autorité, et qui est qu'on arrive à ce que l'autre fasse ce qu'on veut qu'il fasse, sans avoir besoin ni de recourir à la force, ni de recourir à la persuasion. Et ça, c'est la forme d'autorité. Et donc, quand on dit que la crise de l'autorité, en fait, je m'inscris en faux, parce qu'il n'y a pas de crise de l'autorité en tant que telle. L'autorité n'a pas disparu. Cette forme immédiate de pouvoir, elle continue, elle est possible. Par contre, ce qui a disparu, c'est pour ça que je rentre dans la distinction entre autorité de jure et autorité de facto, qui est que ce qui a disparu, c'est l'autorité de jure. C'est-à-dire que autrefois, plus aisément, le statut, la place occupée, l'uniforme, faisait que la personne avait intériorisé le fait que c'était une position d'autorité, donc je m'y soumettais et donc je suivais ce que voulait cette
l'uniforme,
personne.
L'uniforme, la coiffe, la casquette,
l'habit
fait le moine, l'habit faisait l'autorité.
Exactement. Et de ce fait, voilà, ça permettait d'avoir une autorité très efficace, hein, très pratique, etc., mais qui était une relation de soumission claire et entière de la personne à une autre, et qui est quand même limitative par rapport à la volonté d'émancipation, d'épanouissement personnel. Et donc, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il a une autre forme d'autorité, qui est l'autorité de facto, un peu plus compliquée, parce que justement, elle n'est pas « il suffit que j'occupe un poste, je sois directeur, et tout de suite, tout le monde va me suivre ». C'est parce que j'aurais démontré un certain nombre de choses qui fait que les autres personnes qui travaillent avec moi auront l'habitude et auront compris dans quel sens je m'inscris, et qui fait que la prochaine fois que je montrerai un cap, quand je dis « je », ce n'est pas moi en particulier, hein, c'est toute personne qui exercerait une position d'autorité de facto, eh bien du coup, le suivront, mais parce que ça s'inscrit dans une logique où il y aura une démonstration préalable. Et ça, c'est l'autorité de facto, qui est l'autorité intéressante, parce qu'on garde la notion d'autorité, mais dans une relation égalitaire. C'est-à-dire qu'on continue à avoir du pouvoir, le pouvoir ne disparaît pas, mais on est dans une relation égalitaire où l'autre, en fait, a compris vraiment quel était l'intérêt de laisser le pouvoir à la première personne. Et c'est là où c'est du coup intéressant de distinguer les deux notions et de bien voir que l'autorité est quand même possible, même avec l'approche inclusive et même dans une société d'aujourd'hui.
Et nous continuerons. Je vous propose une deuxième pause musicale, et là nous allons mettre en avant des jeunes artistes, des jeunes guitaristes, les Doigts de Nylon, petit passage peut-être par le flamenco et des jeunes qui se donnent à cœur joie à travailler à trois guitares.
Thank you.
Esprit Occitanie, toujours sentinelle d'humanité, avec mon invité, M. Pierre Sugmela, la société inclusive, jusqu'où aller. On se promène à travers votre livre, l'autorité, un nouveau concept, une société inclusive, équitable. Et vous l'avez bien expliqué, vous nous avez mis de l'eau à la bouche. Il faut lire, je m'adresse à tous les professionnels du secteur, lisez le livre de M. Pierre Sugmela, édition RS. Page 58, après une analyse documentée, avec de nombreuses références intellectuelles, des auteurs qui ont marqué la pensée européenne, française et européenne, vous dites quand même, au bout du bout, quand même, il y a un processus, il faut être concret, vous êtes un homme d'action, vous êtes un fonctionnaire dans un conseil départemental, il faut passer à l'acte. Alors c'est quoi ce processus inclusif? Et vous mettez l'accent plus particulièrement sur quels éléments?
Alors on va retrouver d'abord des éléments tout à fait classiques hein, dans toutes les évolutions des dernières lois dans le secteur médico-social. Et la dynamique qui est de partir du projet de vie des personnes, fameux projet de vie qui est très discuté, puisque qu'est-ce que ça veut dire concrètement, etc. C'est l'idée vraiment du projet de vie, c'est-à-dire voilà, on ne sait pas mieux que l'autre ce qui est bon pour lui ou pour elle. C'est à partir de la personne que du coup on doit pouvoir essayer de faire émerger un projet de vie ou quelque chose d'apparenté. Et c'est ça qui permet à tout un chacun d'avoir une vie plus intéressante. Processus qui n'est pas simple, qui n'est pas évident hein, pour tout le monde de savoir exactement quel est son projet de vie. Mais ce processus de projection, de se dire voilà, j'essaie d'anticiper. Qu'est-ce que je veux être plus tard? Qu'est-ce que je veux pouvoir faire en fonction de ce que je peux faire? C'est ça qui est vraiment du coup intéressant. Et il faut partir de cette logique-là de personnalisation pour s'inscrire dans une logique inclusive. Après, il y a plusieurs dimensions qui permettent du coup d'y répondre. Il y a la question évidemment du réflexe accessibilité. À chaque fois qu'on fait quelque chose, penser l'accès à tout pour tous. Je fais une conférence, et bien du coup, il faut que je pense qu'il peut y avoir une diversité de situations dans la salle, et il faut que je sois prêt à répondre. Je ne peux pas tout anticiper, je ne peux pas tout prévoir, mais je dois faire en sorte que chacun puisse avoir accès au contenu de ce que je veux dire et m'adapter s'il le faut. Ça, c'est les grandes dimensions connues, projet de vie, accessibilité. Mais il y a aussi d'autres dimensions. Si on veut vraiment pousser jusqu'à son terme l'approche inclusive, il faut qu'on ait un raisonnement qui ne soit pas seulement inter-individuel. Là, on a parlé projet de vie, donc c'est à l'échelle de l'individu. On a parlé interaction avec l'accessibilité. Mais il faut aussi une logique plus globale. Et c'est aussi comment on modifie la manière de faire société. Et c'est là où il y a deux grandes dimensions. Il y a une dimension éducative. Quand on y pense, notre système éducatif, les éducations qu'on donne aux enfants, elles sont très individualistes elles-mêmes. Réfléchissons par exemple aux classes, il y a une dimension collective qui est insufflée mais qui est encore très minime et on a tendance à surtout penser à un parcours individuel alors que quand on y pense bien...
Et une véritable compétition également, notre système d'ailleurs. Hein.
Sans compter voilà, que du coup c'est la compétition au détriment de la coopération. Et alors même que plus tard, les meilleurs éléments, ceux qui veulent faire, même ceux qui veulent faire les plus grandes carrières, avoir le plus de pouvoir... Il y a un moment donné, s'ils veulent réussir, ils vont être obligés dans les logiques managériales d'amener un groupe à faire quelque chose. Et pour ça, pourquoi d'emblée, dès le plus jeune âge, on n'aurait pas justement la capacité à encourager aussi ce leadership et cette logique collective qui est tout aussi importante qu'une logique individuelle. Quand on y pense bien, on formate des personnes pour qu'elles soient très performantes individuellement, personnellement. Mais quand elles vont travailler plus tard, c'est jamais complètement leur propre compétence. Elles vont pas travailler seules dans un bureau. Ça peut se produire et tant mieux si ça plaît aux personnes. Mais en général, c'est pas là qu'on va voir les fonctions les plus avec le plus de responsabilité.
Donc le chercheur dans son laboratoire, dans sa paillasse, travaille avec d'autres. Donc aujourd'hui, penser qu'on est tout seul et que va émerger une idée, c'est un mythe. C'est beaucoup de collectifs.
D'où cette nécessité, dès le plus jeune âge, de former aussi dans une logique collective qui n'est pas nécessairement juste une logique penser à l'autre et voilà, et avoir une logique que d'ouverture. Elle est essentielle, mais c'est même pour la réalisation et l'épanouissement même individuel. C'est là où se rejoint du coup l'approche individualiste et l'approche collective. C'est que c'est à travers l'affirmation aussi individuelle et personnelle qu'on va pouvoir aussi permettre un accomplissement collectif. Et puis la dernière dimension, c'est aussi toute la société. Il y a des problématiques telles que la question des aidants, même si on pousse donc la lutte contre l'isolement, tout plein de problématiques de société, on n'y arrivera pas, je pense, à y répondre avec toujours plus de professionnels ou de gens spécialisés. Ce qui permet de répondre à toute une partie des problématiques, hein, quand on y pense même à l'aide sociale à l'enfance, c'est aussi la question fondamentale de la socialisation. Et donc, comment on arrive à aussi réinvestir, réengager l'ensemble de la société. C'est pour ça que j'ai aussi une partie sur une nouvelle forme de démocratie participative implicative qui doit permettre aussi de se réinvestir dans son quotidien, dans son quartier, pour pouvoir aussi participer pleinement à une société inclusive. Parce que c'est aussi dans ces interactions de proximité qu'on arrivera à apporter des réponses que nul autre ne pourra apporter.
Tout en respectant votre droit de réserve, quand vous travaillez avec des élus qui s'impliquent, qui ont fait campagne, qui développent des politiques sociales dans le département, vous avez le sentiment que nos politiques, de manière générale, je ne voudrais pas pointer ici et là, vous comprenez aisément qu'on n'est pas là pour donner des bons points, mais quand même, vous dites, il y a une conscience, nos hommes politiques dans le département, dans la commune, au niveau de la région, au niveau aujourd'hui national, exécutif, il y a une prise de conscience. On est prêt. Vous êtes un intellectuel plutôt sévère ou un intellectuel plutôt déjà oui, on a fait le bout de chemin. Alors, est-ce qu'on est mesuré comme les Grecs? Est-ce que nous sommes dans la mesure, non pas dans l'hubris?
La question de la tempérance. Je pense qu'on est à un moment clé pour les élus où il y a le besoin. Je crois que ça a été suffisamment dit sur. Le nouveau mouvement émergent au niveau national avec le président de la République, qui avait le besoin d'un projet de société. On a vraiment un problème par rapport à ça, c'est qu'on ne sait pas vers quelle société se tourner, se projeter. Et donc, il y a quelque chose de très fort d'attendu de passer à cette société nouvelle. Donc, c'est là où il y a un terreau fertile pour faire advenir, malheureusement, comme le dit Gramsci, c'est là aussi que les monstres surgissent, peut advenir aussi tout et n'importe quoi, mais aussi le meilleur. Il n'y a pas que le pire qui peut advenir. Et c'est là où je vois la possibilité de l'approche inclusive. Après, plus localement, on a la chance peut-être en Occitanie hein, et en Haute-Garonne en particulier d'avoir cette recherche et cette volonté justement de concilier l'émancipation, l'épanouissement personnel avec des dynamiques fortes de fonctionnement républicain et qui fait qu'il y a vraiment quelque chose de très fort qui, je le cache pas, correspond pleinement du coup à une logique politique au niveau par exemple du conseil départemental auquel j'appartiens et où se recoupent beaucoup de choses qui plaisent très fortement, que ce soit au président, au vice-président en charge du handicap, au président du conseil départemental.
Vers la fin du livre, hein, c'est 200 pages, à la fin du livre, vous parlez, vous l'avez dit rapidement, mais peut-être faut-il revenir. Vous dites, oui, il y a un modèle social possible, et c'est ce modèle social possible d'une nouvelle démocratie. Il faut apprendre à délibérer ensemble, quoi. On a perdu ça dans notre pays, on a du mal, on est dans le clivage. On est dans la conflictualité. Vous dites, non, il faut dépasser cela. L'émergence possible de cette société inclusive, c'est qu'il faut délibérer sur le bien commun de notre société pour tous. Alors là, vous dites, c'est une démocratie participative, délibérative, différemment. Il faut penser différemment aujourd'hui et penser le social différemment. Vous allez dans ce sens, quoi.
En fait, je pense qu'on a une des grandes limites de notre démocratie actuelle, c'est que, et c'est très français, et moi le premier, je suis aussi formaté comme ça, c'est la démocratie des idées. Et on le voit bien dans les débats, ça me plaît beaucoup d'écouter des débats, de réfléchir, ça me plaît beaucoup de parler ce soir voilà, sur les grands concepts, les grandes idées, et c'est essentiel, je pense que ça doit perdurer. Mais il faut aussi le relier à quelque chose de concret. Une des limites qu'on a en France, avec notre esprit cartésien, c'est qu'on a des approches très hypothético-déductives, c'est-à-dire on a bien les grandes idées, les grandes valeurs, et après on va décliner, et donc en quelque sorte, d'abord la carte et ensuite le territoire, et le territoire on va l'adapter le plus possible à la carte. Alors que des pays anglo-saxons, ils sont beaucoup plus empiriques, ils partent du terrain, de la réalité des choses, et c'est aussi pour ça que c'est plus facile l'approche inclusive dans des pays comme ça, mais avec des limites qui ont que peut-être n'ont pas les mêmes valeurs et les mêmes processus. En tout cas, la situation française fait qu'on est très souvent dans les très très grandes idées et du coup la démocratie a tendance à se concentrer sur des grandes idées et c'est une fois de plus absolument incontournable. Mais la grande question, c'est comment on se rapproche de le plus possible du concret, du territoire, du terrain et même du domestique. On le sait en France, on le voit bien dans l'enseignement, par exemple, tout ce qui est enseignement pratique, manuel, c'est dévalorisé au détriment de l'enseignement intellectuel. Les tâches ménagères, c'est vu comme vraiment la dernière des choses, du coup, à faire. Et je pense que là, il faut qu'on arrive à réintroduire tout l'intérêt de ces éléments très concrets qui sont les tâches domestiques, le travail manuel. Et aussi dans la démocratie, comment je me réinvestis sur des questions toutes bêtes. Mais dans ma rue, comment ma rue est aménagée? Et ça, c'est on a en fait complètement délégué ça, aux maires, aux élus de proximité, en s'en plaignant parce que c'est très pratique, hein, du coup, d'avoir quelqu'un de tout déléguer et puis de dire ça fait pas. Ça... Et là, c'est là que sur des choses comme ça, autant il faut des élus pour parce qu'on peut pas tout le temps délibérer sur tout, autant il y a des choses très concrètes. Si on pouvait les délibérer au niveau d'un quartier, ça permettrait justement de se réinvestir et de faire en sorte d'avoir absolument un intérêt pour les choses très pratiques et très concrètes autour de soi.
On arrive au terme de notre émission. Vous avez une heure. J'invite encore tous les auditeurs d'Esprit Occitanie de lire cet ouvrage passionnant. On sent le professionnel, l'intellectuel, mais le militant engagé. Ce n'est pas qu'une croyance à la société, c'est une conviction forte que vous avez dans vos tripes. Oui, on peut aller à cette société. Et il faut aller très, très, très loin. Vous avez fait des conférences. Comment le public vous reçoit? Est-ce qu'ils viennent vous poser des questions? Vous avez des jeunes étudiants dans les écoles de formation qui facilement viennent à vos conférences. Comment ça se passe pour terminer cette émission?
Alors, ça se passe plutôt très bien, mais c'est certainement un peu biaisé aussi parce que viennent à ces conférences des personnes qui, certainement, ont déjà un goût pour l'approche inclusive. Mais le vrai plus, et ce qui me fait profondément plaisir, c'est quand, en expliquant les éléments de contenu de l'ouvrage, je vois, en fait, dans l'interaction qui se joue avec les personnes dans la salle, la compréhension du changement de paradigme que ça représente et de... du champ qui s'ouvre en termes de possibilités, où je sens la réaction de se dire « mais en fait, oui, je croyais que l'approche inclusive, c'était ça ou ça », ou on voit une grosse limitation comme l'enseignement, par exemple, qui sont des vraies difficultés rencontrées par les enseignants. Mais en fait, on se rend compte que voilà, y a quand même un chemin possible et quelque chose derrière qui apporte quelque chose et qui est transcendant. Le dernier exemple, c'est on a décidé à Sciences Po Toulouse de faire une sensibilisation à côté du racisme, des violences sexistes et sexuelles, une sensibilisation à l'approche inclusive. Et donc, du coup, j'ai été, voilà, je me suis collé à l'exercice pour la première fois avec les deuxièmes années de Sciences Po. Et c'est vrai que c'était fantastique parce que je voyais, du coup, cette interaction et les étudiants qui applaudissent spontanément à la fin, de ce qu'on vient de présenter, ça montre qu'il y a quelque chose qui n'est pas que rationnel, qui est aussi émotionnel. Et moi, ça a été pour moi aussi un élément clé, hein, parce que, je me disais à un moment donné, je suis pas très content parce qu'on n'a pas de projet de société, etc. Mais à un moment donné, est-ce que je m'en tiens là et je m'arrête là, ou est-ce que je me dis, mais en tant que citoyen, allons-y dans l'arène et puis proposons des choses, parce que c'est beaucoup plus compliqué quand on propose que de se plaindre de ce qui se passe. Et donc, il faut y aller et montrer les chemins possibles, la société qu'on souhaiterait. Et c'est là où je pense essayer de démontrer que, à la fois, bien sûr, c'est l'ordre du souhaitable, c'est-à-dire que c'est pas sûr que ça advienne. C'est vraiment, du coup, une question de choix de société, de volonté des membres qui composent la société. Mais il y a beaucoup d'éléments quand même qui sont en germe et qui peuvent conduire, du coup, à cette société telle que j'essaie de la faire advenir, la faire entrevoir, en tout cas, aux lecteurs et aux auditeurs.
Est-ce qu'on a un autre ouvrage en préparation où vous laissez un peu de temps sur la société inclusive, sur le médico-social ou autre?
Alors, pas tout de suite sur un autre ouvrage au vu de l'implication très forte que ça représente. Et mon but premier dans l'immédiat, c'est justement de concilier à la fois l'intellectuel et le très pratique. Et j'ai cette chance justement d'avoir cette casquette à la fois directeur de service du conseil départemental, donc les mains dans le cambouis, et en même temps cette réflexion en tant que professeur de Sciences Po. Et là maintenant, j'aimerais vraiment du coup essayer de le traduire dans des choses très concrètes pour voilà, parce que vous l'avez compris, ça me plaît beaucoup la réflexion intellectuelle, mais j'aimerais vraiment concilier approche théorique et approche très concrète, très pratique, et donc aller encore plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui pour essayer d'y donner corps et de montrer qu'il y a des choses véritablement possibles. Donc voilà, peut-être mon horizon immédiat, il est plutôt celui-là pour l'instant.
Mille merci, Monsieur Pierre Sugmela, d'avoir accepté cette invitation. Ravi d'avoir partagé avec vous cette heure autour de la société inclusive, jusqu'où aller.
Merci beaucoup,
Monsieur
Pinza. C'était un vrai plaisir.
Vraiment, j'invite l'ensemble des professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social, qui sont les collègues que nous fréquentons au quotidien. Une belle lecture salutaire. Merci à tous et on se retrouve bientôt avec Sentinelle d'Humanité.